Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et l'amour d'Allah soient sur vous les amis. Dire que je suis ravie de vous retrouver, ce serait d'un euphémisme sans nom. Je suis extatique à l'idée de diffuser cet épisode. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore quelques jours, j'étais littéralement au bout du rouleau, bien incapable d'écrire et encore moins d'enregistrer le moindre mot. Figurez-vous que après 2 ans passés à l'esquiver comme jamais, le Covid m'a rattrapé et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il m'a bien fait galérer. Donc aujourd'hui, je vais bien mieux par la grâce de Dieu et je profite de cette santé retrouvée pour pouvoir monter, diffuser et vous partager ce nouvel épisode qui est riche en enseignements. Voilà, je voulais quand même expliquer la raison de mon absence parce que je vous l'ai toujours dit, j'ai vraiment à cœur d'être très transparente avec vous durant chaque épisode de ce podcast, Inch'Allah. Voilà, sans plus tarder, je vous laisse avec mon invité et je vous souhaite une excellente écoute. Faites très attention à vous, prenez soin de vos proches et à très vite, Inch'Allah.
Les gens sont en souffrance. Les gens, quand ils vont mal, ils ont ce réflexe-là de vouloir se protéger. Et souvent, pour se protéger, on contre-attaque. Et c'est là où ça donne tous ces conflits, où c'est elle, c'est lui, etc. Si on peut arriver à enlever l'armure des gens et leur proposer un bouclier pour se protéger, parce que parfois, on a besoin de se protéger, c'est essentiel.
C'est tout à fait.
Mais un bouclier peut suffire. Il n'y a pas besoin d'être en armure.
Il y a des rêves qui se vivent la nuit et d'autres qui, comme par magie, se réalisent dans la vraie vie. Échanger avec Ali Habibi entre dans la seconde catégorie et croyez-moi les amis, il n'est pas impossible qu'il vous bouleverse vous aussi. Psychologue, thérapeute et spécialiste en addiction depuis des années, Ali a vu le couple évoluer. Il a senti nos aspirations changer et observé nos nouvelles ambitions se casser le nez. Alors il s'est donné comme mission de nous accompagner, nous écouter et parfois même, par la grâce divine, nous réparer, nous et notre vision erronée d'un mariage sans nuages. Durant cet échange, on parle de la thérapie de couple, de l'intérêt de considérer cette option et de l'importance de ne jamais la voir comme une obligation, de l'intérêt capital de prendre ses responsabilités dans les failles, les limites, mais également les solutions pour préserver, voire sauver son union sacrée, de la colère, du manque de respect, et d'à quel point les deux sont intimement liés. Certains rêves bercent nos nuits, et d'autres nous réveillent, éveillant nos âmes ensommeillées le temps d'une conversation enregistrée. Je vous laisse sans plus tarder avec mon invité, et vous souhaite, Inch'Allah, une merveilleuse écoute. Harry Ali, je vais vous demander s'il vous plaît de vous présenter en m'indiquant donc votre prénom, votre profession, et depuis combien d'années vous exercez s'il vous plaît.
Très bien. Alors, je m'appelle Ali Habibi. Alors, je suis principalement de base thérapeute de couple et de famille, mais je suis aussi chercheur en psychologie clinique, psychopatho, et mon objet de recherche se tourne plus sur la psychopathologie et la religion. Mm-hmm. Et j'exerce depuis plus de 15 ans, presque 20.
Je vous posais cette question parce que moi, je vous connais depuis quelques années maintenant. Il y a des vidéos de vous sur Internet où vous êtes très, très jeune, vous êtes toujours très, très jeune. Hein, mais là, on sent que... Ça fait au moins 10 ans, voilà. Donc, mashallah, alhamdoulilah, ça prouve votre expertise. Mais ma question, elle est sur le fait de... Moi, quand je vous vois, je me dis, mais à quoi ça ressemblait la réalité de la thérapie de couple? Parce que moi, c'est comme ça que je vous ai connu, il y a 10 ans, 15 ans.
La différence entre la thérapie de couple aujourd'hui et il y a 10, 15 ans?
Oui.
Alors, il n'y a pas... vraiment de grandes différences. Il y a des petites évolutions qu'on peut noter, notamment sur le public qui prend rendez-vous. Moi, j'accompagne en grande majorité, quoi, les personnes qui viennent me voir font partie de la communauté musulmane, sont musulmans. Donc, à 90%, ma patientèle est musulmane, voire un peu plus de 90%. Et il est vrai qu'il y a 15-20 ans, je voyais presque essentiellement que des femmes qui venaient seules, qui avaient du mal à faire venir leur époux. Certains venaient un peu à reculons, mais bon, après, ça se passait bien, donc ils continuaient. Et d'autres, malheureusement, ne venaient pas. Et en fait, l'évolution qu'on peut noter, c'est que progressivement, mais très rapidement, c'est-à-dire ça, je l'ai noté au bout de 4-5 ans peut-être, il a commencé à avoir de plus en plus d'hommes qui venaient en consultation, que ce soit des consultations individuelles ou que ce soit en couple, et qui étaient partants pour une thérapie de couple, ce qui n'était pas le cas au départ. Donc aujourd'hui, Donc, plus de 15 ans après, il y a toujours beaucoup, une petite majorité de femmes qui prennent rendez-vous pour leur couple ou leur famille, mais il y a beaucoup plus d'hommes qui viennent et beaucoup plus d'hommes qui prennent rendez-vous eux-mêmes et qui sont initiateurs,
Alhamdoulilah.
qui sont justement ils propulsent cette dynamique au niveau de la démarche et c'est eux qui veulent prendre rendez-vous ou c'est eux qui essayent de convaincre leur épouse de venir au rendez-vous. Donc, il y a une évolution, voilà, on peut dire à ce niveau-là.
C'est une très belle évolution parce que moi j'ai des gens autour de moi, bah, c'est plutôt du coup des sœurs hein, qui aimeraient commencer une thérapie de couple et elles ont des maris qui sont extrêmement réfractaires et qui eux se disent ah oui d'accord donc toi ce que tu veux c'est rapporter notre vie aux gens c'est ça ton projet donc je pense que c'est des réticences qui sont quand même très culturelles et ma question c'était comment on fait pour convaincre son époux ou son épouse de venir et d'entamer une thérapie de couple et voire même est-ce qu'on doit convaincre? Est-ce que c'est une bonne chose de convaincre?
Alors, est-ce que c'est une bonne chose de convaincre? J'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire oui, dans l'idée de résoudre des problématiques importantes ou pour un aller mieux. Donc, ça peut être intéressant d'essayer. Alors, j'utiliserai pas forcément. Enfin, dans le mot convaincre, il y a vaincre, en fait. C'est ça qui peut être inquiétant. Il y a cette idée de combattre l'autre ou de, vous voyez, de dominer l'autre dans une discussion et donc d'imposer quelque chose. Et ce qui donne des personnes qui viennent alors qu'ils n'ont pas envie de venir ou qui viennent pour dire qu'ils sont venus et pour faire plaisir à l'autre. C'est pas toujours un bon départ. Mais bon, après, ça va dépendre du feeling qui va se passer entre le thérapeute et ces personnes-là. Qui peuvent être assez réfractaires à venir. Si ça se passe bien, ils peuvent prendre goût et se rendre compte de l'intérêt de la thérapie, d'où l'importance, et ça c'est plus le travail du thérapeute, de mettre en sécurité les personnes, de les rassurer sur comment se déroule une thérapie, sur le cadre thérapeutique, parce que c'est pas raconter sa vie, l'objectif c'est pas de raconter sa vie, l'objectif c'est de trouver des solutions à des problèmes qu'on peut rencontrer dans sa vie de couple ou dans sa vie familiale ou dans sa vie individuelle, parce que je reçois aussi énormément de gens qui viennent seuls pour des problématiques individuelles et pas forcément que des problématiques liées au couple ou à la famille. Donc, si c'est pour convaincre, entre guillemets, l'autre de l'intérêt justement de venir en thérapie et d'essayer, pourquoi pas essayer, voir ce que ça donne, pourquoi pas. Si c'est d'imposer à l'autre, c'est là où c'est moins top. Pourquoi? Parce que soit l'autre va être dans une forme d'opposition, c'est-à-dire que pas beaucoup de gens aiment qu'on leur impose des choses.
Ah,
Donc,
c'est sûr.
quand on vous impose une chose, même si elle est bonne pour vous, vous avez tendance à la refuser.
Puis en fait, on reste sur le fait qu'on nous l'a imposé. Donc en fait,
C'est ça.
que ça nous paraît savoureux au point, on dit non, mais on m'a forcé à le manger ça, donc
Exactement,
j'en voudrais pas.
exactement. Et après, je comprends aussi ces personnes-là, que ce soit des femmes ou des hommes, même si c'est
Bien
majoritairement
sûr.
des femmes, qui sont dans une détresse où elles se disent, je ne trouve pas de solution à nos problématiques, je n'arrive pas à me faire entendre ou à me faire comprendre, je souffre de ma situation, ou mon partenaire, je le vois souffrir aussi de cette situation, et on n'a pas d'issue, on ne trouve pas d'issue favorable. Et là, il y a une opportunité qui pourrait convenir, qui pourrait peut-être nous aider, j'en suis moi convaincu. Mais mon partenaire ne l'est pas du tout. Donc on se dit, et ça c'est le réflexe de certaines personnes, de se dire, bah en fait il n'a pas envie de régler le problème. Vous voyez? Ce qui est faux, ce n'est pas parce que l'autre refuse, quoi, ce qui peut être faux, pardon, ce n'est pas parce que l'autre refuse de venir en thérapie qu'il n'a pas envie de trouver de solution. Parce que des solutions, il en cherche, lui, de son côté. Il essaye de les trouver. Et ce n'est pas parce qu'il ne réussit pas à en trouver et qu'il refuse certaines propositions qu'il n'a pas le même objectif que vous. Vous voyez? Et donc, dans ce désir d'imposer à l'autre ou d'essayer de convaincre l'autre, etc., ça peut se transformer en conflit, ça peut se transformer en personnes qui se braquent, soit qui ne viennent pas du tout et ça peut être encore un peu plus compliqué, ou
Bien
alors qui
sûr.
viennent mais qui participent pas énormément. Et ça c'est assez dommage. Maintenant, pour répondre à la première question sur comment essayer de les convaincre malgré tout, l'idée c'est de leur donner envie. Et pour leur donner envie, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui les inquiète. Parce que s'ils refusent, c'est qu'ils ont une inquiétude. Oui. Et c'est de partir de là. C'est pas de se braguer, de se braquer, pardon, à son tour en se disant non mais tu fais pas d'efforts et tu veux pas trouver de solution. C'est de dire ok, pourquoi t'as pas envie? Ben, j'ai pas envie de raconter ma vie à quelqu'un d'autre, un inconnu, et en plus de ça, un homme ou une femme, etc. Ok, d'accord. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui te pose? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes que tu rencontres? Eh ben, il y a le coût. J'ai pas envie de payer. J'ai pas envie d'être jugé. J'ai honte de certaines choses. J'ai pas envie de parler de mon intimité, etc. Ok, très bien. Vous prenez ces inquiétudes et vous essayez de le rassurer sur ces inquiétudes. en lui disant que le thérapeute, c'est pas un juge, que le thérapeute, c'est pas un avocat, il n'est pas là pour prendre parti ni pour toi ni pour moi, que le thérapeute, il voit du monde tous les jours et c'est pas nos histoires à nous qui vont l'intéresser plus que ça,
Oui, ou qui
que
vont le
son rôle à
traumatiser
lui,
même. Ouais.
exactement, et que son rôle, c'est de nous aider à trouver des solutions, c'est sa profession, il a l'habitude de le faire, nous, on n'y arrive pas. Nos amis n'y arrivent pas, ou alors on ne fait pas appel à eux, nos familles, j'en parle même pas, etc., etc. Donc, il faut qu'on trouve quelqu'un qui puisse être neutre, qui puisse avoir des connaissances dans une expertise dans ce domaine-là. Et le fait qu'on ne le connaisse pas, c'est même top, parce qu'il n'y a pas d'affect ou de conséquences par rapport
Y
à
a
ce
pas
qu'on pourrait.
d'enjeu.
Et il n'y a pas d'enjeu. C'est pour ça que même un thérapeute n'accompagne pas les gens qu'il connaît. Vous voyez? Donc, si j'ai un ami qui a un problème et qui m'appelle, je vais lui dire d'aller voir quelqu'un d'autre. Je pourrais pas l'accompagner. Donc, il y a pas d'affect, il y a pas de risque, il y a pas d'enjeu. Et en ce qui concerne le coût, eh ben là, c'est encore une fois relatif, c'est de se dire oui, mais tout a un coût. Maintenant,
Bien
qu'est-ce que
sûr.
je suis prêt à faire pour trouver des solutions à ma problématique, tout simplement. Si on a d'autres solutions qui sont moins coûteuses, c'est pourquoi pas. Si on n'en a pas et que y a pas d'autre choix, bah dans ce cas-là, est-ce que ça vaut la peine? Et là, de le voir comme un investissement pour justement voir si on peut sauver ce qu'on aimerait sauver. Et là, ça renvoie à la question du désir. Qu'est-ce qu'on veut
Ouais.
réellement par rapport à ce qu'on vit tous les deux? Moi, j'ai pas de problème, c'est toi qui as un problème. Ça, c'est une réponse qu'on peut aussi entendre souvent qui peut être blessante. Et là, c'est de faire prendre conscience à l'autre que, mais si j'ai un problème, tu as un problème aussi, parce qu'à
Est-ce que
partir du
c'est un
moment
couple?
où on est en couple, il y a cette entité couple qu'on construit tous les deux, qu'on a créé tous les deux, et elle va être affectée si je vais mal toute seule ou si toi tu vas mal tout seul. Donc, c'est l'idée, c'est de trouver des solutions.
D'accord. J'ai une dernière question précisément sur la thérapie de couple. J'écoutais une interview d'un psychologue que vous connaissez bien, je pense c'est Maximilien Bachelard qui
Ah
intervient
oui, bien
qui intervient beaucoup sur Beurre FM. D'ailleurs, pour les personnes qui nous écouteront, je ne peux que vous inviter à écouter les interventions de notre frère Ali Habibi et de Maximilien aussi dans l'émission Beurre FM à votre santé. Il y a vraiment des discussions qui sont passionnantes et vous en apprendrez beaucoup, Inch'Allah, sur le couple, sur la vie en général. Je ferme la parenthèse. Mais donc Maximilien disait dans une de ses conversations que quand on venait le voir, très souvent, les couples qui venaient le voir, c'est des personnes qui venaient le voir comme ils vont voir un médecin légiste. C'est-à-dire qu'ils viennent le voir en disant « je viens constater le décès de mon couple ». On est d'accord que mon couple, il fonctionne plus, ça c'est une chose. Et il avait, c'est vrai que la métaphore était très intelligente avec le médecin légiste parce qu'en fait, il dit, la deuxième question, c'est qui est le coupable? On est d'accord que c'est elle le coupable? On est d'accord que c'est lui le coupable? Et du coup, ma question, c'est est-ce que vous voyez aussi ce genre de
Bien sûr.
posture, de comportement? Et la deuxième question, c'est comment on fait? Parce que c'est ça, comment on fait pour pas venir trop tard? Nous, on veut pas, constater des décès, on veut réparer le mariage.
Alors, pour la première question, oui, bien évidemment, et je pense que tous les thérapeutes de couple ou de famille font face à cette problématique de personnes qui viennent un peu pour qu'on constate. Vous savez, il y a des gens qui viennent en thérapie, pas pour arranger leur relation, mais pour y mettre fin. Et c'est pas forcément un problème. Attention, il faut pas non plus les juger. Pourquoi? Parce que si c'est un moyen pour eux d'y mettre fin de la meilleure des manières, alors c'est bienvenu. Vous voyez? Parce que sinon, ils peuvent se dire, si on fait ça entre nous deux, ça va être n'importe quoi, ça va être la guerre, on va aller dans tous les sens. Et ça sera, surtout s'il y a des enfants, ça va être catastrophique. Alors qu'en voyant un thérapeute, et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, de voir des couples qui me disent, écoutez, nous, on vient pour divorcer, mais on veut bien divorcer. Et donc là, il n'y a pas de problème. On peut aussi les accompagner pour une séparation convenable. Mais la chose que vous avez pointée du doigt et dont parlait Maximilien, ça c'est quelque chose qu'on voit très souvent. C'est des gens qui viennent vous voir très tard par rapport à leur problématique. Ça c'est très très fréquent. Et souvent ils vous disent, ah, si on était venu 5 ans ou 10 ans avant, ça aurait été beaucoup mieux. On aurait évité voilà les problèmes et les conséquences de ces problèmes et on aurait pu mieux sauver notre relation. Mais donc les gens viennent très tard. Parfois trop tard, ça peut arriver. Et c'est vrai ils peuvent être certains peuvent être dans la position que vous puissiez constater le décès comme vous disiez tout à l'heure, ou de trouver un coupable. Et à ces personnes-là, en fait, il y a une réponse qui est très simple, c'est qu'on n'est ni médecin légiste, ni juge. Donc on n'est ni là pour constater quoi que ce soit à ce niveau-là, ni trouver un coupable. Ça nous intéresse pas, en fait, de trouver un coupable. Pourquoi? Parce que on peut partir, alors, sauf dans des situations vraiment très graves, mais en règle générale, soit on se dit, chacun il a une part de responsabilité. Et donc on va tendre vers comment se responsabiliser le plus, assumer nos responsabilités, faire face à la problématique main dans la main et trouver des solutions. Ou alors de se dire, vous avez tous les deux raison. c'est pas un problème. Vous pouvez tous les deux avoir raison, mais c'est juste que vous vous placez à des niveaux différents et vous voyez les choses différemment. Vous avez un exemple qu'un de mes anciens maîtres avait, un de mes anciens enseignants qui était Moni Al-Kaïm, c'est un grand thérapeute familial, qui était aussi psychiatre. Il donnait souvent cet exemple qui était assez assez illustrant. Il parlait, vous voyez, les portes qui tournent dans certains bâtiments.
Oui, oui. Quand on rentre souvent dans des supermarchés ou des choses comme ça,
exact,
par exemple.
Ou dans les grandes surfaces. Oui. Donc, vous rentrez d'un côté. Faut que, alors maintenant, c'est en infrarouge, ça se fait automatiquement, mais à l'époque, il fallait pousser.
C'est vrai.
Vous voyez, et, ou dans le métro, vous voyez, c'est-à-dire qu'il fallait pousser. Et ceux qui étaient derrière, ben, faut qu'ils poussent en même temps pour avancer.
Ah, oui.
Et si vous n'êtes pas coordonné, ben, il y en a un des deux qui va se prendre le métal dans le dos. Et souvent, donc, l'exemple qu'il donnait, il disait que souvent, les couples, comment ils fonctionnent, c'est que chacun a une position de cette porte-là. Le premier dit à l'autre, écoute, je peux pas avancer, arrête de pousser, tu pousses trop fort, j'ai besoin d'avancer. Et l'autre va lui répondre, mais c'est toi qui pousse et qui m'empêche ou qui me pousse à pousser ou qui m'empêche moi aussi d'avancer.
Ouais.
Et donc chacun va être dans une position, il va voir les choses de manière assez réduite, qui vont être vraies, ce qu'il va voir est vrai, mais c'est pas la totalité.
Ouais.
Ça va être un des rôles du thérapeute, c'est de les aider à voir les choses d'une manière panoramique, on va dire en prenant un peu plus de distance pour mieux voir ce qui se joue. Donc pour ces couples-là, c'est de leur faire prendre conscience qu'ils peuvent avoir tous les deux raison. C'est pas un problème. Maintenant, l'idée, c'est d'essayer de mieux comprendre l'autre. Et quand on a affaire aussi à des couples qui viennent en mode, voilà, on veut juste que vous constatiez que mon couple est mort et que c'est elle la fautive ou que c'est lui le fautif, bah, on peut aussi, avec un peu de provocation, leur dire, mais en fait, qu'est-ce que vous voulez réellement? Pourquoi vous venez me voir? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Et si ce que vous attendez de moi, c'est ça, je peux pas vous le donner, c'est pas mon rôle. Et dans ce cas-là, on va plus revoir et c'est pas un problème et on se dit ça, moi et comme. Mais en règle générale, quand on tourne le truc correctement, ben les gens prennent un peu plus conscience et même s'ils viennent avec cette position au départ, ça peut évoluer même très rapidement et ils peuvent après tendre vers un travail pour améliorer les choses ou au moins pour comprendre ce qui se joue. On peut faire les choses étape par étape. Chaque couple est différent. Vous avez des situations qui sont plutôt simples et vous avez des situations qui sont extrêmement complexes.
Donc, si je comprends bien, l'idée, c'est de faire comprendre à l'autre que, quelque part, l'idée, c'est pas de savoir qui a raison, c'est d'essayer, en tout cas, de tendre à vouloir voir, comme on dit en anglais, the bigger picture. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un peu l'un des grands problèmes, l'un des grands sujets, parce que j'aime pas le terme problème, l'un des grands sujets de notre ère, c'est qu'on est beaucoup sur les pixels et on n'est pas du tout sur la grande photo, quoi. Et chacun se dit, mais moi, mon pixel, c'est ça. Ah oui, moi, mon pixel, c'est ça. Non, mais bien sûr, c'est pas, bien sûr, toi, tu vois ton pixel, moi, je vois le pixel, mais c'est pas ça la question, en fait. La question, c'est, on doit un peu prendre du recul pour voir la grande photo, quoi.
Et c'est exactement ça, mais c'est pas évident à faire. C'est-à-dire qu'on nous a pas appris à faire ça. On ne l'apprend nulle part, c'est-à-dire ni à l'école, ni souvent dans les éducations qu'on a pu avoir, on ne nous apprend pas à faire ça. Mm-hmm. Et parfois, même ceux qu'on a eu comme enseignants ne savent pas non plus le faire. Donc, c'est pas facile à faire. On reste des humains vulnérables avec nos failles. Et la problématique, c'est que les gens ont peur. Les gens souffrent et donc ont mal. Et puisqu'ils souffrent et qu'ils ont mal et qu'ils perçoivent et qu'ils interprètent énormément, souvent en plus les interprétations qui sont les nôtres sont les pires, sont les plus douloureuses, ce sont celles qui nous font le plus mal, alors qu'elles sont peut-être très loin de la réalité, mais c'est une interprétation auquel on va s'attacher, qu'on va croire fermement, comme si c'était si évident et si vrai que ça.
Comme
si
c'était la vérité.
Ouais, tout à fait. Exactement, et on va réagir en conséquence. Donc, on va réagir avec de la peur et de la crainte et avec une volonté de ne plus avoir mal ou de moins avoir mal. Les gens sont en souffrance. Les gens, quand ils vont mal, ils ont ce réflexe-là de vouloir se protéger. Et souvent, pour se protéger, ben, on contre-attaque. Et c'est là où ça donne tous ces conflits, où c'est elle, c'est lui, etc. Mais globalement, si je devais donner une autre image pour mieux illustrer un peu ce qui se passe chez certains couples qui viennent, ou quel est notre travail en réalité, ou sur quoi on peut les aider réellement, dites-vous tout simplement que beaucoup de gens viennent avec une grosse armure. Justement parce qu'ils ont eu trop mal dans la vie et qu'ils veulent plus avoir mal, ils sont tous avec une grande, vous voyez les armures un peu du Moyen-Âge qu'on voit un peu dans les films à l'ancienne,
ouais, tout à fait.
Les films qui retracent un peu cette période-là, c'est des grosses armures, c'est très compliqué de bouger avec une grosse armure, vous voyez, c'est-à-dire que
tout à fait.
Utiliser vos articulations, c'est extrêmement lourd, ça réduit vos champs de capacité, mais d'une manière assez considérable. Et beaucoup de gens viennent avec une très grosse armure. L'idée, c'est d'essayer de leur faire prendre conscience que c'est pas nécessaire d'avoir une grosse armure, en plus c'est très handicapant, mais on pourrait avoir un bouclier, histoire de se protéger de temps en temps, mais un bouclier, vous voyez, vous n'êtes pas obligé de le lever tout le temps, vous pouvez
c'est
le,
bien
le
plus poser, maléable, ouais.
C'est plus malléable, c'est beaucoup plus léger, et vous pouvez faire plein d'autres choses, et vous pouvez courir, et utiliser vos articulations, etc., etc. Si on peut arriver à enlever l'armure des gens, et leur proposer un bouclier pour se protéger, parce que parfois on a besoin de se protéger, c'est essentiel.
C'est tout à fait.
Mais un bouclier peut suffire, il n'y a pas besoin d'être en armure. Mais parfois, souvent les gens sont en armure, et c'est le fait qu'ils soient en armure qui pose encore plus de problèmes.
Oui, bien sûr.
Vous voyez ?
Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour cette belle métaphore. Elle est vraiment bienvenue. C'est incroyable. Vous me faites des transitions aux petits oignons. C'est formidable. J'avais vraiment une question justement qui était sur la colère. Moi, si j'ai un enseignement qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup servi dans les enseignements que vous avez pu prodiguer à travers la Zawadj School, et on en parlera inchallah. C'est vous aviez il y a tout un chapitre sur la colère, me semble-t-il. Et il y a une phrase que vous dites, je vais essayer d'ouvrir et de fermer les guillemets parce qu'elle m'a vraiment profondément touchée, c'est lorsque vous êtes en colère, c'est parce que vous ne sentez pas respecté. Cette phrase, elle m'a coupé les jambes parce que on relit un peu sa vie à la lumière de cette phrase et on comprend tellement de choses. Et ça recoupe un peu ce que vous disiez, à savoir qu'en fait, souvent en plus, on est en colère parce que c'est lié à nos blessures d'enfance en fait. La majorité de nos réactions, c'est pas la personne qui nous met en colère, c'est parce qu'on rattache sa phrase, son attitude à quelque chose qui nous blesse déjà beaucoup. Et moi, je vraiment, à chaque fois que j'en parle autour de moi, je vois le regard des gens s'ouvrir. Donc, j'aimerais, s'il vous plaît, qu'on passe quelques minutes juste pour un peu réexpliquer un petit peu ce phénomène-là, parce que je pense que ça peut vraiment aider des gens.
Ok. Alors, globalement, alors, il faut savoir déjà que les émotions, la colère est une émotion. Souvent, on la présente comme une émotion négative. Chose que je ne partage pas à 100%. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce que pour moi, de base, les émotions sont neutres. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont utiles. Elles sont nécessaires. Voilà, c'est une information qui nous est donnée pour nous protéger ou pour nous aider. Maintenant, il va de soi que la tristesse et la colère, par exemple, peuvent amener à des conséquences dramatiques. C'est-à-dire que si je laisse la colère et la tristesse m'envahir et prendre le dessus sur moi, les conséquences vont être dramatiques. Mais c'est pas parce que des conséquences peuvent être dramatiques que initialement cette émotion est mauvaise. On peut avoir des colères saines, on peut avoir des colères pures. La colère, elle peut aider à protéger des gens qui sont vulnérables. Vous voyez, quand vous voyez par exemple quelqu'un qui protège la veuve et l'orphelin, c'est parce qu'il est en colère contre l'injustice, contre l'oppression. Donc il y a quelque chose qui va animer, et ça va être cette émotion de colère qui peut l'aider à agir et produire de cette énergie qu'il peut utiliser en bien ou qu'il peut utiliser en mal. Ça, c'est vrai. Maintenant, sur la colère, ce qui se passe souvent, c'est qu'on a tendance à réduire cette émotion à une action de l'extérieur. Vous voyez, par exemple, quelqu'un est en colère, il klaxonne, il insulte, ou il frappe, ou voilà, il tabasse, parfois même c'est plus, et vous lui dites pourquoi vous avez fait ça, il va vous dire, mais c'est parce que c'est l'autre, c'est elle ou c'est lui ou c'est les autres. Ah, il m'a fait une queue de poisson, il a fait ceci, il m'a klaxonné, il m'a doublé pas correctement, il m'a pas laissé la priorité. Donc ça, c'est, on est dans le champ de la route. Le champ de la route, il est passionnant à analyser en réalité, parce que vous voyez le côté primitif de l'homme quand il a un volant.
C'est vrai. C'est-à-dire c'est vrai.
Tout ressort à l'état brut.
Tout à fait.
Et c'est très compliqué à gérer. C'est-à-dire que si vous voulez apprendre à gérer vos émotions, la route, ça peut être
un terrain. Faut prendre la route souvent, c'est vrai.
Extraordinaire.
C'est un bon utilisation de la colère, tout à fait.
C'est très difficile, parce que même des gens calmes explosent quand ils roulent. Mais donc, dans l'exemple, c'est que ça vient de l'extérieur. Si on prend le couple, ça va être, je suis en colère parce qu'elle crie, ou je suis en colère parce que il fait pas attention à moi, ou parce qu'il a regardé quelqu'un d'autre, etc. Ok, donc on va dire que la colère qu'on a, on va la définir en disant, elle vient de l'extérieur. C'est l'autre qui me met en colère. Et c'est là où ce que j'explique dans mes interventions, c'est que c'est pas possible que la colère puisse venir de l'extérieur. Parce que la colère, c'est une émotion. Si c'est une émotion, elle vient de l'intérieur, elle vient pas de l'extérieur. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est de donner un pouvoir à l'autre qu'il n'a pas. Si je dis, ma femme, rien qu'elle m'énerve, rien qu'elle me met en colère, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de lui donner un pouvoir sur moi qu'initialement, elle a pas.
Tout à fait.
Elle n'a pas ce pouvoir, c'est moi
en fait, on autorise, on ouvre la porte, et donc ce fuel-là, du coup, fait qu'en soi, ça brûle.
Exactement. Et donc, et en plus, ça reste une illusion, parce que comme elle l'a pas, bah, en fait, c'est faux. Ouais. Donc, si je décortique, et qu'on va me dire, OK, ouais, mais je suis quand même en colère. Je rentre, l'exemple que je donnais, je pense, dans la vidéo, c'est si je rentre chez moi et que ma femme crie. Donc, imaginons que je rentre chez moi et ma femme me crie dessus, et que je vais lui dire, ah, tu m'énerves, rien que tu cries, etc. OK. Et on va me dire, pourquoi tu t'énerves à lui? Je vais dire, ouais, mais elle crie. Rien qu'elle crie ou elle crie. OK. Est-ce que c'est parce qu'elle crie que je suis en colère? Pas totalement. Encore une fois, c'est pas elle qui me met en colère. Donc dire tu m'énerves ou elle m'énerve ou elle me met en colère, c'est pas réellement juste. Le plus juste, ça serait de dire je suis énervé.
Ouais.
Vous voyez, c'est parce que ça vient de l'intérieur et parce que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de moi, c'est pas à l'extérieur. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, en réalité, c'est pas parce qu'elle crie que je suis en colère. C'est parce que moi, dans mon monde à moi, dans ma manière de voir le monde, dans ma manière de ressentir les choses, et donc dans les expériences que j'ai eues à l'enfance et puis à l'âge adulte, quand des personnes parlent à une fréquence qui est un peu trop forte pour moi, moi, j'ai l'impression qu'ils m'agressent et qu'ils ne me respectent pas. Mais ça, c'est moi, c'est pas les autres. Donc, si moi, j'ai l'impression que quand on élève la voix, on m'agresse et qu'on ne me respecte pas, et ben quand on va élever la voix, je vais être en colère. Mmh. Et donc, je vais avoir l'illusion de croire que je suis en colère parce qu'on crie. Non, je ne suis pas en colère parce qu'on crie. Je suis en colère parce que j'ai l'impression de ne pas être respecté par l'autre. Je suis en colère parce que j'ai l'impression de ne pas être entendu par l'autre. Et donc, la colère, elle va venir comme une réaction à un besoin que j'ai qui n'est pas assouvi ou qui n'est pas reconnu. J'ai besoin d'être respecté. Si je ne suis pas respecté, il va y avoir une conséquence au niveau émotionnel. Cette conséquence, ça peut être la tristesse, ça peut être la colère, qui va venir en conséquence, qui va venir en réponse au fait que mon besoin ne soit pas reconnu. Et dans les couples, c'est ce qui se passe tous les jours. Vous voyez, tous les jours, vous avez des personnes qui sont pas bien, qui sont en colère ou qui sont tristes, et quand vous leur dites pourquoi, ils vont dire bah, c'est à cause d'elle ou c'est à cause de lui, alors qu'au fond, non, c'est quel est ton vrai besoin à toi d'abord? Bah, j'ai besoin d'être respecté, alors dis-lui. Dis-lui, écoute, si tu cries, c'est que tu vas pas bien. Je l'entends, et tu as besoin d'aide, et je veux bien t'aider. Par contre, là, je peux pas. Parce qu'en fait, quand tu cries, moi, je me sens pas respecté. Oui, mais je veux pas te manquer de respect. Je sais que tu ne veux pas me manquer de respect. C'est un problème entre moi et moi. Moi, j'ai l'impression de pas être respecté. Même si je sais que tu veux pas me manquer de respect, j'ai cette impression-là. Et tant que j'ai cette impression-là, je vais pas forcément bien réagir. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire ce que tu as envie de me dire plus calmement pour que je puisse mieux l'entendre? Je me sentirai respecté. Je pourrais mieux l'entendre et donc je pourrais potentiellement mieux y répondre et donc t'aider et devenir honnête. Tout en sachant que ça reste une perception. Parce que vous avez des personnes qui parlent fort sans se rendre compte qu'ils parlent fort.
Oui.
Et quelqu'un qui a grandi dans une famille nombreuse avec 10 frères et sœurs où la seule manière de survivre dans cette famille c'était d'élever la voix sinon vous entendez pas, et ben à 30 ans, cette personne va avoir des décibels assez importantes. Pour quelqu'un qui est fils unique, qui chez lui on parlait calmement, tout doucement et tout allait bien, ben il va se sentir agressé non-stop. Ouais, ouais. Alors que l'autre en face n'aura même pas conscience de ce sentiment-là et n'aura même pas conscience de la décibel parce que pour l'autre personne, elle parle normalement ou il parle normalement. C'est pas fort. C'est toi, tu parles trop doucement. Vous voyez?
Ouais,
et donc
fait.
Où vous avez des gens qui ont des problèmes auditifs, etc., qui n'entendent pas. Bref, là où je veux en venir, c'est que c'est pas l'autre qui me manque de respect. C'est moi qui ai l'impression de ne pas être respecté. C'est moi qui ai besoin d'être respecté. Et quand ça, c'est pas reconnu ou pas assouvi, eh ben, il y a un risque de réaction qui peut être la tristesse, qui peut être la colère. Donc, les émotions viennent de l'intérieur, elles viennent pas de l'extérieur.
Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et vraiment, je vous remercie d'avoir réincité là-dessus. Mais une partie de moi se dit, ouais, mais quand même, en fait, est-ce que c'est pas déresponsabiliser l'autre? Est-ce que c'est pas déresponsabiliser l'autre de, justement que de se dire il n'y est pour rien? Bah parfois c'est sa faute, non?
Mais c'est pas ce que j'ai pas dit, il n'y est pour rien.
C'est vrai.
Oui.
C'est vrai.
Donc,
c'est vrai.
J'ai pas dit que l'autre n'y était pour rien. Ce que j'ai dit, c'est que la colère vient de l'intérieur, que c'est une réaction qui vient me protéger de quelque chose, que ça soit bon ou mauvais, ça vient me signifier quelque chose, ça vient me dire quelque chose, ça vient me dire surtout qu'un besoin n'a pas été assouvi ou qu'il n'a pas été reconnu. Ça c'est le point de départ et la genèse, si vous voulez, de cette émotion. Et c'est pour qu'on arrête de dire qu'elle vient de l'extérieur. Parce que quand je dis « tu me mets en colère » ou « c'est ta faute », qu'est-ce que je suis en train de faire? Ben, je me déresponsabilise totalement, moi, de mon côté, et je donne tout sur les épaules, je mets tout sur les épaules de l'autre.
C'est très vrai.
Et là, c'est une grande injustice.
C'est
Donc, quand je dis que ça vient de moi, je suis pas en train de dire que l'autre n'a pas sa part de responsabilité. Mm-hmm. Ce que je suis en train de dire, c'est parce que l'autre peut aussi appuyer là où il faut, savoir quels sont les boutons où appuyer pour. Mais initialement, c'est ça vient de l'intérieur. Maintenant, je suis pas forcément responsable de ça. C'est-à-dire mm-hmm. que le fait que j'ai besoin d'être respecté et que quand on crie, j'ai l'impression de pas être respecté, ce n'est pas forcément ma faute ou ce n'est pas forcément un mal, mm-hmm. ce n'est pas forcément ma responsabilité. Mais ce que je vais en faire, ça va être ma responsabilité. Ça, c'est déjà pour rester sur ma responsabilité à moi. Et puis, après avoir réglé ce champ-là, qui n'est pas déjà, qui n'est pas simple, qui n'est pas forcément, voilà, qui n'est pas évident, ça mm-hmm. va déjà m'occuper un petit moment. Une fois que je m'occupe de ce champ-là, je pourrais après analyser le comportement de l'autre. Oui, mais tu vois, je sais que tu vas pas bien, mais tu vois, quand tu me parles en me pointant du doigt, ou, en, mm-hmm. ou avec un l'air renfrogné, avec un ton menaçant, ou quand tu insultes, ou quand tu es vulgaire, je n'accepte pas ça. Ça, c'est la responsabilité de l'autre. Mm-hmm. Okay. C'est-à-dire que si l'autre m'insulte et que je me mets en colère,
ouais.
je ne vais pas juste dire « je me mets en colère, c'est moi le problème ». Non, ce que je suis en train de dire, c'est que si l'autre m'insulte et que je me mets en colère, c'est parce que l'insulte n'aura pas répondu à mon besoin de respect. Quand on m'insulte, je ne me sens pas respecté.
C'est vrai.
Ça, c'est, encore une fois, donc la base. Mais l'autre, il est responsable de son insulte. Et mm-hmm. donc, je vais l'inviter à ne pas le reproduire parce que ce n'est pas sain et ce n'est pas correct et ce n'est pas respectueux.
C'est passionnant et franchement je vous remercie parce que moi quand j'ai regardé justement cette vidéo, il me manquait cette partie-là. Enfin moi en tout cas, je l'avais pas conçue.
D'accord.
Et du coup, j'étais vraiment dans ce en fait, j'avais besoin que cette injustice, mais je pense que c'est la blessure de l'injustice chez moi qui n'est pas complètement soignée, j'avais besoin que cette injustice soit adressée. Et moi ça me semblait j'entendais en partie on déresponsabilise l'autre, mais en fait non, se responsabiliser soi c'est pas déresponsabiliser l'autre.
Exactement, l'autre. Ouais. Exactement. Non, le problème c'est qu'on a une vision la plupart d'entre nous
oui.
Tout à l'heure je vous parlais du discours qu'on peut avoir qui peut être simpliste, mais on peut oui. avoir aussi des positions binaires, c'est-à-dire
c'est exactement ça,
c'est soit de la faute de l'autre soit de ouais. la mienne.
Exactement.
Alors que non, on l'a dit dès le début, c'est très complexe les relations mm-hmm. et là l'idée c'est d'arrêter. Parce que tout le monde va chercher les responsabilités de l'autre, ou tout le monde va vouloir mettre des responsabilités sur le dos de l'autre, même quand ce n'est pas les siennes.
Bien sûr.
Et en fait, en utilisant ce mode de fonctionnement, on ne peut pas y arriver. Mm-hmm. Ça sera toujours la guerre. Ça sera toujours la guerre et ça sera toujours des conflits. Le point de départ, c'est de se dire, on se pose. Et oui. dès qu'on se pose, est-ce qu'on veut travailler ? Oui, on veut travailler. OK. Premier niveau de travail, c'est déjà voir quelles sont nos responsabilités individuelles. C'est quoi ? Mais je vais arrêter de regarder les responsabilités de mon épouse. Je vais commencer à regarder les miennes.
Mmh.
Parce que quand je vais me concentrer sur les miennes, qu'est-ce qui va se passer ? Déjà, je vais me rendre compte que j'en ai pas mal. Puis, en me concentrant sur les miennes, je peux pas me concentrer sur les siennes. Mmh. Donc, je la laisse en paix pour le moment.
Bien
moi,
sûr.
Je travaille sur moi. Et donc, ce jihad, ce combat, il va être à l'intérieur de moi-même. Et puis, si elle fait exactement la même chose, ça va diminuer les tensions. Et c'est là où on commence à rentrer dans je reconnais mon erreur, je reconnais que là j'ai mal agi, mm-hmm. je demande pardon, je m'excuse, etc. C'est parce que je vois que j'ai fait des erreurs et que j'ai aussi ma responsabilité. Et puis, deuxième niveau, une fois qu'on reconnaît les responsabilités de chacun, en fait, si ça c'est bien fait, il n'y a même pas besoin de parler des responsabilités de l'autre. Pourquoi ? Mm-hmm. Parce que chacun va assumer les siennes.
Bien sûr.
Chacun va se concentrer sur... Bon, ça c'est dans l'idéal. Hein. dans le réel, on aura quand même besoin de faire ce travail. On va dire... Ok, vous avez un champ qui est le vôtre, vos responsabilités à vous, mmh. et puis il y a aussi le champ des responsabilités de l'autre dont on peut parler. C'est pour ça, par exemple, que dans la jurisprudence musulmane, vous avez le champ des droits et des devoirs.
Mmh.
Et donc, le droit et les devoirs, c'est important. Pour ma part, il est important de ne pas rester focalisé là-dessus et de ne mmh. pas fonder sa vie que sur les droits et les devoirs, parce que sinon, on est dans une relation législative où c'est que du texte et c'est que des règles.
Et on part sur du code de la route, quoi. C'est très, c'est pas ça la vie, quoi. Ouais.
Et c'est pas ça la vie. Mmh. Les règles, elles sont importantes pour sécuriser, pour structurer, mais c'est le chemin qui est le plus important. Mmh. Vous voyez ? Donc, on respecte les règles pour pouvoir justement circuler correctement, ouais. mais c'est le chemin et l'objectif, la destination que je vise en partant de mon point A pour arriver à mon point B, qui est le plus important. Et justement, dans la vie de couple, ce qui est important, c'est pas forcément de se regarder les yeux dans les yeux, c'est de regarder dans la même direction. Mmh. Et en regardant dans la même direction et en avançant, c'est là où on peut évoluer, c'est là où on peut avancer. Mais ces droits et ces devoirs, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que j'ai des droits, donc les autres ont des responsabilités, mais j'ai des devoirs, donc j'ai des responsabilités. Et en tant que musulman, il me semble très important, et ça, c'est un des sujets qui sur lequel j'insiste énormément, c'est le champ de la responsabilité. J'insiste beaucoup dessus, quitte à donner l'impression que c'est parfois un peu trop. Pour moi, c'est pas trop dans le sens où le postulat, c'est qu'on se déresponsabilise énormément.
Ah, on est dans une époque où on déresponsabilise beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Et c'est un problème.
Tout à fait.
C'est un gros problème.
Je suis complètement d'accord avec vous. Tout à fait.
Et c'est un gros problème sur deux champs. Le premier champ, c'est au niveau relationnel. C'est-à-dire que, en se déresponsabilisant, tout le monde se sent lésé. Et donc, c'est que tout le monde est troublé, tout le monde souffre, personne n'est bien, et tout le monde est en colère, et tout le monde n'est pas bien, et ça crée beaucoup de problématiques.
Parfaitement.
Ça, c'est sur le champ relationnel. Et le deuxième champ, c'est le champ spirituel. Parce que si je fais que de me déresponsabiliser, et que je ne me responsabilise pas, je vais avoir un gros problème devant Dieu. Mmh. Parce que quand je vais me présenter devant lui, il va me demander des comptes sur ce dont j'ai été responsable, pas ce dont les autres étaient responsables.
Bien sûr.
Donc, si je ne suis pas prêt à faire face à ce jour où je vais devoir devoir rendre des comptes et devoir justement, entre guillemets, assumer mes responsabilités et par rapport à ce que j'ai assumé ou pas sur Terre, si je ne pense pas à ça, ça va être un problème. Mmh. Donc, quelqu'un qui est soucieux de ce jour où il va se présenter devant Dieu, qu'est-ce qui va se passer ? Il va être soucieux de comment il est avec les autres humains. Mmh. Et donc, il va arrêter de regarder ce que les autres font, il va se concentrer sur ce que lui fait. Et si chaque humain agit comme ça, tout le monde s'en sort bien et tout le monde sera content.
Exactement.
Parce que la déresponsabilisation, vous la remarquez même dans le langage. En tout cas, alors, je ne suis pas expert dans toutes les langues et dans tous les dialectes, mais moi, je suis d'origine marocaine. Mmh. Et dans le dialecte marocain, vous avez un champ lexical qui est... Alors, c'est impressionnant. Tellement il est dans le fait de se déresponsabiliser.
C'est vrai. À
travers le lexique et le langage. Et c'est inquiétant, c'est affolant. Je vais vous donner quelques exemples. En marocain, quand vous avez un train à 17h et vous l'avez loupé, on ne dit pas qu'on a loupé le train. On dit le train il est parti sans moi.
Alors c'est une vue de l'esprit.
C'est un problème parce que
c'est un problème.
Le train est parti à l'heure.
Exactement.
C'est moi qui n'ai pas été là à l'heure. Mais en disant c'est lui le responsable. Déjà, en plus, on va personnifier le train. On va responsabiliser le train. Ça fait beaucoup de déresponsabilisation. Je vais vous donner un deuxième exemple. Quand on se cogne, par exemple, je me cogne contre un mur. Je ne vais pas dire « je me suis cogné », je vais dire « le mur m'a frappé » dans le dialecte. Quand on analyse un peu ces champs-là, c'est rigolo et intéressant, mais en même temps, ça nous dit
profond,
beaucoup
dit
sur comment, exactement, sur comment on est, comment on se positionne et comment on voit les choses, et sur cette déresponsabilisation, cette forme de déresponsabilisation auquel on est beaucoup adhéré et qui est, islamiquement parlant, un gros problème. Parce que l'islam va dans l'autre sens. Mais c'est tout pour qu'on se responsabilise le plus.
Mais je reviens vraiment à ce qu'on s'est dit au début de la conversation, parce que pour moi, c'est vraiment ça. Et moi, c'est en ça que je trouve l'islam formidable, fabuleux. C'est parce que justement, c'est cette responsabilisation en plus, c'est cette responsabilité en plus. Parce que moi, je trouve que autour de nous, il y a des grands savants, il y a des grands sachants qui grandissent pas forcément dans la foi, qui prennent beaucoup la parole dans les médias, sur nos réseaux sociaux. Et ces gens-là n'aident pas du tout à prendre les responsabilités. Et je trouve ça merveilleux que l'islam, la foi, la religion aident vraiment à toujours garder ça en tête en se disant le jour où on se déresponsabilise, c'est la fin. C'est la fin d'une civilisation que de se déresponsabiliser. Et ça, on le voit beaucoup. Mais encore une fois, ça a été une de mes prochaines questions dans ce féminisme occidental où on retire Dieu de l'équation. Et moi, j'ai tendance à dire que quand on retire Dieu de l'équation, le calcul est faux. C'est pas plus pour moi en tout cas. Quand on retire Dieu de l'équation, le calcul est faux. Et c'est ce qu'on voit en fait dans ce féminisme où on en vient à une dualité. C'est toi ou c'est moi. Si aujourd'hui je suis oppressée, c'est parce que c'est toi qui m'oppresses et c'est toi qui me lèses. Alors, je dis pas qu'il y a pas d'oppression. Hein. Est-ce que les hommes ont utilisé la religion, la loi, les règles pour léser les femmes? Oui, hein, aux trois, on est d'accord. Mais la question, c'est si on veut se réparer et si on veut que les relations hommes-femmes aillent mieux, j'ai quand même le sentiment que on doit jamais, jamais, jamais lâcher la responsabilité. Jamais se dire tout est de la faute des hommes. Quand je vais mal, quand je me fais agresser, moi, je ne me remets jamais, 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 jamais en question. Je ne suis pas certaine que ce soit la solution.
Alors, vous savez, alors, que ce soit le féminisme, que ce soit des courants de pensée, que ce soit la philosophie, en fait, dans tous les domaines où il y a, on essaie d'avoir une perception les plus justes du réel, je partage ce que vous disiez, si vous enlevez Dieu de l'équation, il va avoir un manque plus qu'important. Maintenant, c'est aussi très compliqué. Pourquoi? Parce que c'est des réactions, en fait. Vous voyez, par exemple, le féminisme, c'est une réaction.
Tout à fait.
À des millénaires d'injustice.
Exactement.
Pareil, vous voyez, c'est-à-dire que pendant des millénaires, des milliers d'années, voire plus, dans beaucoup de civilisations, presque toutes, et encore aujourd'hui, hein,
parce que c'est pas fini, malheureusement.
Il y a cette réaction, mais encore aujourd'hui, la femme a été bafouée, elle a été écrasée et elle a subi des injustices. Elle a subi des injustices terribles, terribles. Chose que, bien évidemment, l'islam vient changer ça. Le problème qui se passe, et ça, c'est aussi un problème dont il faut parler, c'est qu'il y a une différence entre le fait que l'islam change ça, et on nous invite à le changer, et certains musulmans qui ne le changent pas.
Exactement.
Vous voyez, donc, et qui vont continuer à utiliser la religion pour essayer d'asseoir leur pouvoir, pour essayer d'asseoir une forme de tyrannie, pour dominer, pour écraser, et pour amener, alimenter encore plus d'injustice, couvert de religion en plus, qui va pousser des gens à s'éloigner de la religion.
En plus, tout à fait.
On a encore après un autre problème. Mais il y a des réactions humaines. Il y a des réactions humaines sur des choses qui sont graves. Et la réaction est peut-être initialement saine, c'est-à-dire, je n'accepte plus cette injustice, je ne peux plus tolérer. Ça, c'est cruel et c'est fou d'accepter ça. Donc, je réagis. Le problème, c'est que c'est compliqué quand on réagit de se faire entendre. Et souvent, ce qui se passe, mais c'est humain, les réactions peuvent être au même niveau que ce qu'on a critiqué ou ce qu'on essaye de combattre. Vous voyez, c'est-à-dire que puisque les hommes ont mal agi, ou certains hommes, ou beaucoup d'hommes ont mal agi pendant des milliers d'années, nous, on va aller à l'opposé. Et cette réaction, elle est naturelle. Elle n'est pas forcée, elle n'est pas bonne, mais elle est naturelle. Là où l'islam va venir justement amener de l'équilibre, c'est de dire ni ce côté est bon. Et d'où le fait de se responsabiliser. D'ailleurs, quand vous prenez le verset où Dieu dit qu'il n'attend pas à une âme une chose qu'elle ne peut pas porter.
Une charge plus lourde, oui, qu'est-ce qu'elle ne peut supporter.
Donc ça, c'est un verset qui nous dit arrêtez de culpabiliser, arrêtez de prendre des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, arrêtez de prendre des problèmes qui ne sont pas les vôtres. Ce verset, il nous dit ça. Mais il nous dit autre chose de l'autre côté. Ce qu'il nous dit, c'est mais ce que vous devez porter, vous devez le porter. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'incombe pas à une âme ce qu'elle ne peut pas porter, mais ce qu'elle peut porter, elle doit
Le porter. Elle doit le porter, tout à fait.
Et cet équilibre qui n'est pas forcément toujours simple à trouver, que ce soit dans les relations hommes-femmes, que ce soit dans les relations parents-enfants.
Prenez
la relation parents-enfants. Les parents ont une place extrêmement importante et privilégiée dans l'islam. Ils viennent juste après Dieu. Elle est presque sacrée, leur place. Mais on oublie que les enfants ont aussi des droits sur les parents.
Exactement.
On oublie que les enfants, ils appartiennent pas aux parents. On oublie que les enfants, c'est aussi des individus, quoi. C'est aussi des jeunes humains qui tendent à être des individus et qu'ils vont s'émanciper. Ça, on l'oublie. Ce qui fait que vous avez parfois des parents, sous couvert du religieux aussi, qui vont asseoir une domination sur les enfants de manière injuste.
Exactement.
C'est pas islamique, forcément.
C'est vrai.
Donc, parfois, on mélange un peu les concepts du parce qu'on doit respecter et obéir, alors on devient un objet de l'autre. Et là, c'est un problème, parce que on n'est pas des objets, et encore moins l'objet d'un autre humain.
Non, et puis on ne s'appartient pas.
Et on ne s'appartient pas soi-même déjà, donc on appartient encore moins à d'autres.
Exactement.
Mais pour revenir sur la réaction du féminisme, et quand je vous disais que ça n'a pas forcément... on est toujours dans ces problématiques. Ces problématiques, vous les voyez dans le rapport entre les hommes et les femmes au niveau professionnel, au niveau du salaire, au niveau des études. Vous êtes une jeune étudiante, vous étudiez, vous tombez enceinte, la fac, elle s'en contrefiche et votre carrière, et votre CV, etc. Ça va poser, si vous faites de la recherche, c'est un problème. Et dans les salaires, il y a quand même une différence. Dans le traitement, il y a une différence. Et si je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur l'imagerie, quoi, sur la publicité, c'est toujours le corps de la femme qui est utilisé pour créer du désir et pour vendre des produits.
Complètement. Complètement.
Donc, est-ce que c'est être libre que d'être utilisé comme un objet? Je ne pense pas.
Non, je pense pas non plus. Non, mais ça me paraissait vraiment important et intéressant de revenir aussi sur ce sujet-là, parce que je pense que on est extrêmement noyé dans tout ça. Moi, j'ai quitté les réseaux sociaux il y a plus d'un an maintenant, mais quand j'ai quitté Twitter parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de colère. Et je trouve vraiment, on en revient toujours à la même chose, hein, on est beaucoup dans l'émotionnel et notamment beaucoup dans la colère. Et du coup, on est moins dans dans la responsabilisation, moins dans la gestion des émotions. Et malheureusement, ça vient jusqu'à l'intérieur du couple, en fait. Mais justement, pour parler du couple en un peu plus spécifiquement, c'est quoi les principales raisons qui peuvent freiner, les principaux freins plutôt, à un couple épanoui, au-delà de la colère, des réseaux sociaux, au-delà d'une hypersexualisation des femmes. Quels sont les freins qu'on peut voir venir et qu'on peut ainsi justement un peu empêcher de venir un peu mettre à mal notre foyer?
Il y a plusieurs choses qui peuvent empêcher l'épanouissement d'un couple. La première des choses, vous savez, il y a plusieurs, j'aime pas ce mot-là, mais je vais quand même l'utiliser, c'est le mot secret, parce que souvent on utilise secret pour essayer de, ouais, j'ai trouvé un truc que personne ne sait, etc. Et ça me pose, je trouve ça tellement, tellement insultant et ridicule, mais quand on analyse les couples qui fonctionnent, les couples qui sont mariés depuis des dizaines d'années et qui disent qu'ils vont bien et qu'ils sont heureux ensemble, d'accord? Donc on parle des couples qui fonctionnent bien. Il y a des études qui ont été faites sur ces couples-là pour essayer de voir qu'est-ce qui a permis que ça fonctionne aussi bien. Et vous avez des facteurs, certains appellent ça des secrets, mais c'est juste des facteurs qui ont permis, qui sont utilisés ou qui sont présents et qui permettent justement cet épanouissement. Ce qui est intéressant, c'est que un des premiers facteurs qu'on retrouve chez tous les couples qui sont épanouis et heureux ensemble, c'est que ce sont personnes qui étaient heureux avant même d'être en couple. Donc, ils n'attendaient pas du mariage une solution à leur malheur. Ils n'attendaient pas du mariage qui les rende heureux alors qu'ils ne l'étaient pas. Ils ne commençaient pas à mettre sur les épaules de l'autre une responsabilité qu'ils ne pouvaient pas assumer. C'est-à-dire que moi, je suis malheureux. Je vais me marier, t'as intérêt à me rendre heureuse, ma sœur, parce que, vous voyez, c'est, alors, Miskina va venir.
Je compte sur toi, mais c'est clair. On a nos bagages et ceux de l'époux ou de l'épouse.
Ouais, et si je reste malheureux, c'est de ta faute. Parce que j'attendais de toi que tu me rendais. Et vous voyez, ça c'est un problème. Ouais, et donc, les couples qui fonctionnent bien, c'est des couples qui sont heureux avant de se marier déjà. C'est-à-dire qu'ils sont bien dans leur peau, ils sont bien dans leur vie. Et ils acceptent ce qu'ils ont, ils se contentent de ce qu'ils ont, et ils sont bien. Et ils vont choisir un partenaire qui va les accompagner à continuer dans leur vie, où ils vont déjà bien, en fait. Vous voyez? Et ça va pas être un pansement, ça va pas être un remède magique, etc. Donc c'est le premier point. Le deuxième point qu'on peut citer sur, au-delà de ce que vous avez cité, parce que vous avez cité plusieurs facteurs qui sont importants et qui peuvent empêcher effectivement un couple d'être épanoui. Parmi les facteurs que vous n'avez pas cités, il y a l'individualisme.
Oui.
C'est-à-dire que depuis 70 ans environ, depuis environ 70 ans, on a, vous savez, au niveau du champ de la psychologie, on a remarqué, comme je vous disais tout à l'heure, que les problématiques des patients n'étaient pas les mêmes.
D'accord.
Il y a eu un changement entre le début de la psychologie, puis 1950 et quelques. C'était après 1950, je vous dis des bêtises. Entre 1960 et 70. Depuis les années 60-70 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu un grand changement entre les problématiques des patients. Les problématiques des patients avant 1960 étaient souvent des névroses qui étaient liées à la culture et aux politiques qui étaient en place. Je vais vous donner un exemple. Du temps de Freud, ce qu'on sait, c'est que il voyait beaucoup de femmes qui avaient des symptômes d'hystérie, qui avaient comme névrose l'hystérie, d'accord. Après l'hystérie, c'est devenu une structure, etc. Mais au début, on voyait donc des femmes qui réagissaient, alors hystérie, c'est pas des femmes juste qui crient, elles sont pas contentes. Hein, c'est pas ça, ça a été repris dans.
Oui, c'est une nouvelle définition, c'est une réappropriation peu de ce terme-là, en effet, tout à fait.
Dans la psychanalyse, l'hystérie, c'est ça va être un trouble, ça va être une névrose d'une personne. Alors, elle peut avoir des tremblements, des palpitations. Elle peut s'évanouir. Elle se sent pas bien, etc. Elle peut avoir les symptômes que nous on peut rencontrer, par exemple, quand on fait face à des cas de dite possession. Vous voyez, des personnes qui pensent être possédées par un djinn peuvent avoir des symptômes qui ressemblent plus ou moins un peu aux femmes hystériques du début du siècle dernier. Cette manière d'être hystérique sur le champ de la psychologie au début du siècle dernier n'existe plus aujourd'hui en Occident. Nous, on le voit par rapport, encore une fois, au cas de possession. Mm-hmm. Mais en Occident, la structure hystérique existe toujours, mais elle va se matérialiser différemment, mm-hmm. plus de la même manière. Et cette manière ou cette réaction, elle était notamment due que en Autriche, là où vivait Freud, alors vous avez non seulement le patriarcat, mais vous avez aussi le fait que au-delà du fait que les hommes soient plus puissants, il y a le tabou de la sexualité, il y a le fait que la femme, son désir, c'est même pas qu'il est pas reconnu, c'est qu'il est même pas pris en compte, il n'existe pas. Mm-hmm. Donc cette frustration chez ces femmes-là a fait qu'il y a eu une forme de réaction. Depuis les années 60-70 jusqu'à nos jours, on est plus dans des problématiques qui sont liées aux limites, qui sont liées au narcissisme. Et ces problématiques qui sont liées au narcissisme qu'on a donc depuis 50 ans, c'est nouveau. Ça n'existait pas avant, vous voyez.
Ah, et c'est, ça, mais c'est, ça, ça, enfin, pardon, mais c'est, oui. C'est incroyable de se dire que c'est si récent en fait, que tout ce narcissisme et tout cet individualisme, c'était il y a 60 ans, c'était même pas un sujet. Ça fait peur presque. Alors, la rapidité.
Oui, et ça s'est accéléré depuis quelques dizaines d'années.
D'accord.
Mais il y a plusieurs facteurs qui contribuent à ça, d'accord. Mm-hmm. La manière d'éduquer l'enfant n'est pas la même. Vous voyez, oui. C'est-à-dire que il y a 100 ans, un enfant était éduqué d'une manière assez traditionnelle. Vous avez la mère qui s'occupe de lui ou la nourrice. Puis vous avez le papa qui représente l'autorité, qui va mettre des limites, etc. Voilà, donc la mère va l'accompagner au début, puis le papa va l'ouvrir à l'extérieur, etc. Aujourd'hui, encore une fois, depuis une cinquantaine d'années, le discours des mamans vis-à-vis des enfants, c'est qu'elles n'acceptent pas qu'ils tombent malades, elles n'acceptent pas qu'ils soient pas bien, elles le surprotègent et elles en font des enfants rois. Mm-hmm. Vous voyez, ce qui n'était pas le cas il y a 100 ans. Oui. L'enfant, ce n'était pas un enfant roi il y a 100 ans. Il y avait des problèmes il y a 100 ans, attention.
Oui, complètement.
Certains droits de l'enfant n'étaient pas du tout reconnus et
bien
c'était
sûr.
Un problème. Mais on est passé, vous voyez, à des enfants rois où on les surprotège et ce qui fait que quand ils font face à la réalité du monde, ben, ça pose un problème. C'est-à-dire que si vous prenez un enfant qui ne connaît pas la frustration, vous lui achetez tout ce qu'il veut, vous lui donnez tout ce qu'il veut, vous le surprotégez. Quand il va arriver à l'âge adulte, qu'il va faire face à d'autres humains qui vont lui dire non,
il va pas dans le monde du travail. Ouais.
Il va pas comprendre parce qu'on lui a jamais dit non. Il sait pas ce que c'est.
Ouais.
Et donc on lui a jamais appris à gérer la frustration, on lui a jamais appris à prendre en compte la frustration, ni à l'accepter, ce qui fait qu'il n'acceptera pas la frustration. Et ça, vous le voyez chez nous tous aujourd'hui, on n'accepte pas la frustration. Votre téléphone est en panne ou votre machine, votre internet ou votre, vous voulez qu'on vous le répare tout de suite.
Ouais.
Vous allez en acheter un autre.
Ouais.
Et vous allez appeler le centre d'appel et vous allez faire un scandale. Comment ça se fait que j'ai plus internet? Mmh. En leur criant dessus. La pauvre dame, elle est pour rien en face. Ou ça demande du temps à réparer. Mais non, il faut que ça se répare maintenant, immédiatement, tout de suite. Donc on n'accepte pas la frustration. Donc ça, c'est un champ. De toute façon, je suis pas en train de dire que tous les mots viennent à cause des mamans, comme on va dire.
Si, c'est enregistré en plus, ça, bien sûr.
C'est un facteur. C'est un des facteurs. Et c'est un facteur minime en réalité. C'est un facteur qui est assez minime. Un des facteurs qui est plus important que celui-ci. Alors vous avez un de mes enseignants qui avait écrit dessus, qui avait fait quelques articles qui sont très intéressants, qui s'appelle Dimitri Well, parce que c'est avec un W, je sais jamais comment le prononcer, et où il parle du lien entre l'imagerie publicitaire et le narcissisme, et où il fait le lien justement entre l'influence de l'imagerie publicitaire aux troubles narcissiques qu'on rencontre depuis 50-60 ans.
D'accord.
Et là, vous avez un facteur qui est bien plus dominant et bien plus important que ce qu'on imagine. C'est-à-dire que dans les publicités, quand vous regardez les publicités, et depuis donc un moment maintenant, et c'est encore pire, ça s'est empiré.
Ouais, c'est le mal en point, c'est sûr.
On vous vend de la toute-puissance. On vous fait croire que si vous n'avez pas ces baskets, si vous n'avez pas cet ordi, si vous n'avez pas ce téléphone, vous allez être complètement manquant.
Ouais.
Vous allez être manquant. Et vous ne pourrez pas survivre.
En fait, le matériel nous rend, enfin, le matériel est censé combler notre immatérialité à nous, en fait. Enfin, des choses qui sont complètement immatérielles. Le pouvoir, la conscience en soi.
On est manquant de base. Le problème, c'est que comme on n'accepte plus d'être manquant, on a besoin de combler ce manque. Comment on va le combler? On peut le combler. Alors, on peut le combler avec une épouse, hein. Vous avez des gens, ils veulent combler avec une épouse, ou avec un époux, ou avec de l'argent, ou avec du matériel. Mais vous regardez les publicités, je sais pas, vous prenez n'importe quelle publicité, vous regardez le slogan, ça va être un slogan qui va tendre vers le dernier téléphone, jamais un téléphone n'a jamais été aussi puissant. Vous voyez, on va utiliser des champs qui vont renvoyer à la puissance, à la toute-puissance, au fait de combler totalement et d'être total, d'une certaine manière.
Tout à fait.
et de ne plus être frustré. Le problème, c'est que c'est pas ça qui se passe. Vous allez acheter votre iPhone, vous êtes content sur le coup, et puis quelques semaines après, ben ça devient un téléphone quelconque que vous utilisez, que 5% de ce qu'il peut faire. Et puis un an après, vous allez dire, mais en fait mon téléphone il est nul, je veux celui-là. Mm-hmm. Vous voyez ? Et c'est ce qui se passe aussi dans les couples. Vous allez vous marier, mari il est extraordinaire, et puis vous vous rendez compte qu'il n'est pas si extraordinaire que ça, puis vous commencez à avoir des défauts, puis vous commencez à dire, mais je veux plus cette femme, je veux plus cet homme, je veux quelqu'un de mieux, vous voyez, ou quelqu'un de meilleur pour me compléter encore plus. Mm-hmm. Et je n'accepte plus d'être frustré, je n'accepte plus de d'avoir des problèmes. Si j'ai des problèmes avec mon épouse, c'est que c'est elle le problème, et il faut qu'on arrête. Je vais pas me fatiguer à le régler. Je vais changer d'épouse.
On en revient toujours à la responsabilisation quand même. Hein. C'est incroyable. Hein.
Toujours. C'est tout incroyable. Le temps. Mais incroyable. Là, vous voyez que là, la problématique, elle est un peu plus profonde au niveau du narcissisme et de la frustration, quoi, de la gestion de la frustration. Mm-hmm. Parce qu'on veut pas faire d'efforts. L'effort, personne veut faire des efforts aujourd'hui. Mm-hmm. On a tout facilement. Mm-hmm. Ça, c'est la technologie nous permet des accès, des facilités extraordinaires, et ça on va pas le nier ni le rejeter.
Bien sûr.
Mais en même temps ça a comme conséquence que l'effort, bah, c'est plus compliqué d'en faire. Bien mais sûr. Les efforts c'est compliqué d'en faire physiquement, mais c'est compliqué d'en faire mentalement, c'est compliqué d'en faire spirituellement,
tout
c'est compliqué
fait.
D'en faire relationnellement parlant, c'est compliqué d'en faire, et ce qui fait que les gens font plus d'efforts. Regardez les gens même dans les actes d'adoration. Bah je veux, donne-moi une invocation, un truc où je vais avoir ce que je veux.
Et vite hein.
Mais vous avez des personnes qui ont une relation avec Dieu qui est identique à celle-ci. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire, je comprends pas pourquoi Dieu m'a pas donné ce que j'ai demandé.
Oui.
Ou je comprends pas pourquoi Dieu répond pas à mes prières. Mais Dieu, il travaille pas pour vous. C'est lui le Seigneur et c'est nous les serviteurs.
Exactement.
Faut qu'on arrête de, mais vous voyez comme on sait, et ça, c'est la culture moderne avec le capitalisme. Avec l'imagerie publicitaire, avec toutes ces idées nouvelles et toute cette manière de voir le monde où on enlève Dieu pour enlever la spiritualité, où on met en avant le matériel à outrance, où on empêche toute frustration, tout effort, toute douleur, toute souffrance, et ben ça va donner des personnes qui, quand ils vont faire face à ces réalités-là,
vont
être complètement démunis. Exactement, et c'est pour ça donc je vous disais l'individualisme dans un des critères de pourquoi les couples, qu'est-ce qui fait que les couples peuvent, quel frein on peut trouver à des couples pour l'épanouissement. Et comme dernier point que je pourrais rajouter, c'est le fait de ne pas avoir ou de ne pas avoir pas du tout ou pas suffisamment d'objectifs communs.
Oui.
C'est-à-dire que
vous
avez des couples
ça.
Qui, ouais, vous avez des couples qui sont très bien. Hein. Vous avez l'homme, c'est quelqu'un de bien, la femme, c'est quelqu'un de très bien, les deux sont très bien, machin, il y a aucun problème. Mm-hmm. Mais ça fonctionne pas. Pourquoi? Ouais. Ça fonctionne pas parce qu'en fait, ils partagent rien.
Ouais.
Ils n'ont pas d'objectif. Donc, chacun va faire son petit bout de chemin de son côté, mais tout en étant ensemble. Donc, ça sera un couple un peu colloque où quand ils ouvrent les yeux, ils disent, mais en fait, c'est pourquoi je suis en couple? Et ben, ils vont s'interroger et ils vont remettre en cause ma relation parce que ça ne peut pas, ils vont pas se sentir épanouis, soit parce que ils ne partagent pas grand chose en commun. Donc, ils ne vivent pas grand chose ensemble et ne vont pas en même temps dans la même direction, ou alors quand les besoins de chacun ne sont même pas reconnus ou entendus de la part de l'autre, et donc il n'y a pas de prise en considération du besoin de l'autre. Chacun attend que l'autre réponde à ses besoins, mais personne ne veut répondre aux besoins de l'autre. Là, c'est aussi un frein à l'épanouissement dans une relation de couple. Pour qu'une relation de couple puisse fonctionner, il faut prendre en considération les besoins de l'autre. Ça ne veut pas dire y répondre totalement, ça ne veut pas dire être l'esclave de l'autre, ça ne veut pas dire être au service de l'autre, non. Ça veut dire faut y trouver son compte et il faut que l'autre puisse y trouver son compte.
Exactement.
Et qu'ensemble, on puisse avancer plus ou moins dans la même direction, même si c'est pas au même niveau, même si c'est pas de la même manière tout le temps, même s'il y a des choses sur lesquelles on va diverger, on va pas être d'accord, c'est pas un problème. Il y a des objectifs majeurs communs, il peut y en avoir un, deux, trois, hein, mais quelque chose de très grand et en commun qu'on partage, et puis de très fort. Et puis, on essaye de prendre en compte le maximum de besoins de l'autre pour essayer d'y répondre. Et si chacun agit comme ça, alors même avec beaucoup de désaccords et beaucoup de différences, ça peut très bien fonctionner sans problème.
Et ça peut être tout à fait une relation pérenne.
Et pérenne et épanouissante. Et vous allez
épanouissante, dire, c'est vrai.
Je suis bien avec lui ou je suis bien avec elle. Pourquoi ? Ben, je suis bien avec lui, je suis bien avec elle, parce que je suis en paix, parce que je suis apaisé, parce que j'ai confiance, parce qu'il me respecte ou parce qu'elle me respecte, parce qu'il ou elle répond à des besoins qui sont importants pour moi, parce que et en fait dans les réponses de ces personnes qui sont épanouies, ben vous avez la solution à leur épanouissement, la raison de leur épanouissement.
Bien sûr, j'aurais aimé continuer à discuter avec vous encore des heures, mais le temps file et je vous remercie infiniment mon frère Ali du temps que vous nous avez accordé. J'aurais aimé qu'on parle des ingrédients d'un couple épanoui, mais on en a déjà beaucoup parlé. Et surtout, je me dis que les personnes qui veulent aller plus loin peuvent tout à fait le faire à travers les programmes que vous proposez, notamment celui de la Zawaj School. Moi, c'est un programme que j'ai suivi il y a 4 ans. Moi, pour info, je suis pas encore mariée, et pourtant, j'estime que la préparation au mariage, c'est d'une beauté incroyable, parce que c'est un service qu'on se rend, c'est prendre ses responsabilités, c'est aussi, on l'espère, honorer la personne qui partagera notre vie, et puis c'est aussi, et ça, c'est mon côté créatrice de contenu, mais j'estime que c'est aussi récompenser un travail qui est fourni par vous, mon cher frère Ali, un travail de qualité. On retrouve beaucoup de vos interventions alhamdoulilah sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Vous avez un podcast Islam et Psycho. Et j'invite vraiment beaucoup les frères, les sœurs, les auteurs, les auditrices qui nous écoutent à rémunérer les contenus pertinents, rémunérer les contenus qui vous apportent, rémunérer les contenus qui vous font avancer dans votre foi, qui vous font méditer. Le frère Ali ne me rémunère pas pour ce propos et pour ces dernières minutes, loin de là, mais moi personnellement j'ai été extrêmement touchée, j'ai progressé par la grâce d'Allah, mais via le biais de notre cher frère Ali que vous avez pu entendre. Donc je ne peux que vous encourager énormément à aller voir un peu le travail de notre cher frère Ali. Où est-ce que vous souhaitez les orienter?
Alors merci déjà pour vos mots, Madina. Ça me touche et je suis content que ça vous ait servi. Et merci avec pour votre plaisir, invitation encore une fois pour échanger sur ces sujets-là. Alors en ce qui concerne les contenus, c'est vrai que alors Zawaj School avant était comme d'autres programmes proposés séparément, tout a été réuni sur une seule et même plateforme qui s'appelle Islam et Psycho. Et donc sur la plateforme Islam et Psycho, vous avez toutes les formations et les séminaires, et les futurs séminaires seront aussi sur cette plateforme là. Pour avoir plus d'infos, il faut aller juste sur mon site. Le site du cabinet, c'est habibi.fr. habibi.fr. Donc il y a 2 B au deuxième B. Et vous avez toutes les infos, dessus. Vous avez d'un côté la plateforme où il y a toutes les formations poussées où on va un peu plus loin. Et puis vous avez aussi une vidéothèque accessible gratuitement où vous avez énormément de contenu aussi.
Ah, en plus, la vidéothèque, elle est accessible gratuitement. Non, vraiment.
Oui. Vous avez aussi l'application Cabinet Habibi où vous avez accès à la vidéothèque.
Alhamdulillah. Mais je vous remercie infiniment, mon cher frère Ali. C'était un plaisir, vraiment une grande joie de vous avoir durant 7h15. Prenez soin de vous.
Merci à vous aussi. Qu'Allah vous préserve et qu'il aide vos œuvres, Inch'Allah, et qu'il préserve aussi tous vos auditeurs et auditrices, Inch'Allah.
Amin.
C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. J'espère que cet épisode vous a plu et j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous avez choisi d'en retirer. Halal Love, c'est un podcast qui est fabriqué avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en donner un peu, beaucoup, passionnément, dites-le moi avec 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez 5 secondes et laissez-moi un commentaire sympa, ça c'est si vous avez une minute. Si vous n'avez pas d'appareil Apple, aucun problème. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix, Spotify, Deezer, Google Podcast ou autre. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, sur vos réseaux sociaux, auprès de vos proches, de votre famille et de vos amis. Un grand merci à ceux qui le font déjà et ceux qui pensent à moi dans leurs doigts, leurs invocations en arabe. Qu'Allah Azza wa Jal vous récompense de la plus douce des manières. Vous êtes géniaux, j'ai pas d'autres mots. Je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à mardi prochain si Dieu veut. En attendant, peace and halal love sur vous. Thank you.
Tickling your boss's hand is not appropriate. Shaking it is. Eating a bucket of KFC at your desk is not appropriate. Eating the new KFC lunch meal deal is. It's a Twister wrap, crisps and drink from $5.49. Workplace appropriate for when finger licking is not. Weekdays until 3 p.m. In-store at participating restaurants only. See kfc.co.uk for full T's and C's.